Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous avons le plaisir d'accueillir à la librairie Mola à Bordeaux ce soir Monsieur Lionel Duroy. Donc c'est une occasion rare et privilégiée que de pouvoir rencontrer Lionel Duroy à propos de son dernier livre, L'Absente. Et en plus, c'est particulièrement intéressant de savoir que dans ce roman, L'Absente, Lionel, enfin Augustin, on va dire, Augustin revient dans la région de Bordeaux, justement, sur les terres de sa mère. Donc, Lionel Duroy est déjà à la tête d'une vingtaine d'ouvrages, donc, dont une bonne quinzaine de romans. Et avant celui-ci, L'Absente, il y a eu également Le Chagrin, hein, que beaucoup de gens connaissent parce qu'en 2010, il a obtenu beaucoup de prix, le prix du roman d'émotion, et c'est à juste titre, parce qu'entrer dans l'univers de Lionel Duroy, c'est vraiment être happé par un univers d'émotions et de renvoi à sa propre histoire familiale, souvent. On va voir ensemble comment, justement, l'écriture de Lionel Duroy nous permet de passer du particulier, du singulier, à l'universel pour revenir à notre singularité de lecteur ou de lectrice, parce que c'est, je crois, le phénomène qui se déroule dans le roman, dans celui-ci comme dans beaucoup des précédents, bien entendu, puisque on est dans un univers romanesque, mais aussi très autobiographique, avec des éléments qui reviennent de roman en roman, à commencer justement par le personnage d'Augustin, qui est, je crois, très proche du personnage de l'auteur et de tous les satellites donc autour du personnage d'Augustin. Cette fois-ci, il s'agit surtout de sa mère, mais il était déjà question beaucoup de la mère, dans Le Chagrin, dans Priez pour nous déjà, oui, en 1990. Et donc, cette fois-ci, peut-être grâce à l'étape qu'a représentée dans l'œuvre romanesque de Lionel Duroy, un roman, le roman précédent, Échappé, qui a, je crois, permis d'apaiser beaucoup de choses et de changer un regard sur la vie et sur les autres. Et bien dans ce nouveau roman, L'Absente, c'est justement l'histoire du changement d'un regard sur la mère par le fils. N'est-ce pas, Lionel Duroy ?
Oui, bonjour, bonsoir. Merci d'être venu. Je vais peut-être commencer par vous raconter la genèse de ce roman qui est un peu particulière. Je ne pensais pas du tout que ça allait être un roman sur ma mère. Je n'étais pas du tout parti là-dedans, en fait. J'ai commencé à écrire sur un effroi comme ça que vous avez peut-être partagé. Je ne vous le souhaite pas. Il m'est arrivé de divorcer. Ça arrive malheureusement à des tas de gens et c'est assez douloureux. Et puis, je trouve que c'est déjà une souffrance suffisante comme ça. Mais j'ai réalisé au cours du divorce que peut-être j'allais devoir perdre notre maison. Voilà, j'ai une maison, nous avons une maison qui est très importante parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent et c'est la maison qui s'est construite vraiment avec les enfants et grâce aux enfants. J'ai quatre enfants. Cette maison est essentielle pour eux. C'est le lieu sur la terre où ils sont heureux, c'est le lieu sur la terre où on se retrouve, où j'écris, etc. Je n'avais pas du tout mesuré que pouvait s'ajouter à la douleur du divorce le problème immobilier absolument stupide de savoir comment on partageait le peu qu'on avait acquis. Ce sont des choses qui arrivent, malheureusement, c'est très trivial. Et c'est en même temps une grande souffrance quand tout d'un coup vous réalisez que, eh bien, il va peut-être falloir vendre cette maison puisqu'il faut partager la valeur de cette maison. Voilà. Et c'est une souffrance infernale et qui m'a empêché de dormir pendant une année. J'écrivais à ce moment-là un autre livre et j'étais extrêmement tourmenté par ça. Je me souvenais une fois, il y a une quinzaine d'années, on avait peut-être envisagé d'aller vivre à l'étranger et de vendre la maison. Et je me souvenais du sanglot d'une de mes filles, Julia, qui avait à l'époque 9 ans. Ça m'avait fait tellement de peine et je lui avais juré que jamais on vendrait cette maison. Voilà, que ce serait notre maison pour toujours, quoi qu'il arrive. Donc pendant une année, j'ai pensé devoir la vendre. J'ai réussi à la sauver, donc j'ai cette maison, je la garde, voilà, tout va bien. Mais comme souvent lorsqu'on écrit, j'ai voulu écrire ce qui aurait pu arriver si on avait dû se séparer de cette maison. Et le roman commence comme ça, en fait. Le roman commence par cette journée abominable où des déménageurs arrivent, vident la maison pour tout emporter dans un garde-meuble, et où vous assistez à cette scène affreuse, en fait, de gens qui sont payés pour ça et qui mettent tout en caisse, et tout va partir dans un garde-meuble, tous les petits trésors des enfants, tous ceux auxquels on tient le plus, va s'en aller. Et donc le premier chapitre et un peu les chapitres suivants, c'est en fait Augustin, qui est probablement mon double, qui est en fait le personnage dans lequel je me projette assez souvent. Comme il n'a absolument pas la force d'assister à ce spectacle, il empile dans sa voiture ses manuscrits, les photos des enfants, les cadeaux des enfants, et il s'en va sur la route. Donc le texte démarre en fait comme une forme d'effondrement très douloureuse, et très douloureux, et je ne savais pas où j'allais aller en fait en écrivant. C'est ça qui est intéressant dans l'écriture en fait, c'est que l'écriture vous permet de vous projeter, elle vous permet aussi de découvrir en vous des choses que vous ne saviez pas, que vous n'aviez jamais pu exprimer. Et les mots sont là, les mots comme des outils, et peu à peu, ce qui sort de vous vous surprend vous-même. Et je pensais qu'en fait, ce texte allait terminer de façon catastrophique parce que Augustin est dans ces moments de la vie que vous avez peut-être traversés où on se sent d'une très grande fragilité, au bord de l'effondrement, et où vous vous dites, en fait, j'ai plus très envie de vivre, quoi. Et il est en permanence en train, il conduit dans cette voiture qui est chargée jusqu'au toit, il ne sait pas où il va d'hôtel en hôtel, il est en permanence en train de repousser le moment où il va falloir appeler les enfants et leur dire qu'effectivement c'est fini. Il ne veut pas les appeler. Donc on est parti vraiment dans quelque chose qui est comme ça, sur la crête d'une grande fragilité qui va mal se finir. Je pensais que le livre allait peut-être se finir de façon catastrophique, où j'allais peut-être jeter mon personnage contre un platane, une nuit fatiguée à force de rouler, etc. Et puis c'est une espèce de tour de France comme ça, assez fou. Ça m'intéressait énormément de l'écrire, je trouvais ça très vivant, ce texte. Et puis soudain, dans un hôtel à Verdun, évidemment, on est dans le roman, je ne suis pas à Verdun en vrai, mais soudain, dans un hôtel à Verdun, au milieu de la nuit, alors qu'il ne dort pas, il descend dans sa voiture regarder les photos qu'il a empilées, et voilà, et il tombe sur les photos que j'ai toujours, moi, que je traîne toujours avec moi, qui sont des photos de mes parents, de ma mère, de tous les gens que j'ai connus qui ne sont plus là. Les photos m'ont toujours passionné. Elles font partie de mon travail d'écrivain. Je suis entouré de photos que je scrute à la loupe. Ça me rappelle des tas de choses. Je voyage beaucoup sur les lieux de mémoire pour écrire. Et il se passe quelque chose d'assez particulier, aussi bien dans le livre à ce moment-là que dans ma tête. C'est que je n'avais absolument pas fait le lien entre la perte qui me menaçait de cette maison et ce qui s'était passé l'année de mes 9 ans, qui a fait quand même de moi définitivement un écrivain et quelqu'un d'un peu à part. L'année de mes 9 ans, on a donc été expulsé violemment, ce qui ne m'était pas venu à l'esprit pendant toute l'année où j'avais peur de perdre ma maison. L'année de mes 9 ans, on a été expulsé très violemment. En 3/4 d'heure de temps, je me souviens d'être rentré de l'école à midi et d'avoir trouvé la maison entièrement dévastée avec le commissaire de police dans l'entrée, des déménageurs. On était expulsés parce que mon père ne payait plus le loyer depuis probablement plusieurs mois. On était déjà 8 enfants. Et je me souviens de ce moment, à l'heure du déjeuner de l'école, où ma mère devient folle, en fait, et où elle s'effondre, et où elle sanglote, je vois mon père livide et je la vois devenir folle, quoi. Et c'est ça, toute notre vie bascule en fait à ce moment-là. C'est ce que j'ai essayé de retracer dans Le Chagrin et même dans Prier pour nous. C'est un choc tellement violent que plus jamais ce sera comme avant. Voilà. Et à partir de ce moment-là, ma mère, notre mère, j'ai envie de dire, parce qu'on va être 10 enfants finalement, parce qu'elle devient extrêmement mélancolique, suicidaire, d'une immense fragilité, un peu comme du verre, comme ça, ma mère nous fait peur, en fait. À partir de cette année-là, ma mère est un objet de terreur. Et je me souviens d'elle avant mes 9 ans. C'était sûrement une femme fragile. À partir de cette année-là, où on va être logé dans des HLM, puis on va nous couper l'électricité, puis etc., puis tout va s'effondrer peu à peu. Elle va être hospitalisée, elle va partir, etc. Chaque fois qu'elle revient et chaque fois qu'on la voit, ma mère devient un objet de terreur. Voilà. Et c'est quelque chose de très particulier qui a un poids considérable sur la vie future parce que chaque fois qu'elle apparaissait, on s'en allait. Voilà. On s'en allait comme des petits lapins peureux. Son regard me faisait peur. Je l'ai dit l'autre jour à la grande librairie, je crois, ou à une grande librairie, parce que c'est chaque fois un objet d'étonnement pour moi. Je me souviens seulement à 14 ou 15 ans, alors qu'elle me faisait peur, d'avoir regardé ses yeux pour la première fois, c'est dire à quel point on fuyait son regard, et de m'être aperçu qu'elle avait des très beaux yeux, en fait, des yeux verts. Et c'est la première fois que je le voyais. Et après, à la réflexion, ça m'a toujours beaucoup interrogé, ça, de me dire, c'est incroyable à quel point, quand on est enfant, on fuit ce qui nous fait peur et on ne regarde plus les visages adultes. Et voilà, je suis passé par là pour vous raconter que cette nuit à Verdun, dans la tête de l'écrivain et dans la tête de mon personnage, il se passe quelque chose de très important parce que la jonction s'établit entre l'effroi qu'il a eu de perdre sa maison et ce qui s'est passé l'année de ses 9 ans, ce qui s'est passé pour sa mère. Et c'est à partir du moment où ce lien se crée que le livre va basculer, alors qu'il était une espèce de road movie comme ça, assez désespéré, il va devenir en fait un livre sur la mer. Voilà. Et c'est ça qui me passionne dans tout ce travail, parce que c'est un gros travail ce livre, c'est une année d'écriture qui m'a vraiment passionné, parce que j'ai d'abord réalisé pour la première fois que j'étais beaucoup plus âgé que ma mère l'année où on a été expulsé. J'ai réalisé pour la première fois que cette femme qui nous a toujours beaucoup effrayés et qu'on n'a pas pu aimer, en fait, n'avait que 38 ans quand c'est arrivé. C'est-à-dire qu'au moment où j'écris L'absente, où je me mets à travailler sur elle, je pourrais pratiquement être son père. Et donc, elle devient plus petite. Je suis plus grand qu'elle. J'ai 4 enfants et j'ai la plus âgée de mes filles à 28 ans. Ce n'est pas beaucoup moins que 38, 10 ans d'écart. Et je sais combien mes enfants, que j'adore, combien je les regarde, combien je les aime. Et tout d'un coup, je me suis dit, c'est d'une tristesse absolue, en fait, cette jeune femme qui, pour nous, nous paraissait grande, presque vieille, quand on a 9 ans, 38 ans, c'est beaucoup. Ce n'était en fait qu'une jeune femme avec toutes ses fragilités. J'ai bien pris conscience à ce moment-là qu'on l'avait laissé mourir, qu'on l'avait laissé partir sans jamais pouvoir l'aimer et sans jamais qu'elle puisse nous dire qu'elle nous aimait parce qu'elle était enfermée dans un état de mélancolie ou de tristesse qui a fait qu'on ne s'est jamais, on ne s'est plus jamais croisé en fait. On ne s'est plus jamais dit ce qu'on aurait pu se dire. La mort de ma mère a été très triste, mais mes parents, qui sont vraiment des gens sur lesquels on pourrait écrire une encyclopédie, ont formé un couple qui s'est en même temps sûrement beaucoup aimé et complètement détruit mutuellement. Donc mon père a rendu ma mère folle, je pense, et ma mère a rendu mon père extrêmement malheureux. Et je vous dis ça juste pour souligner ce hasard incroyable des dates, c'est qu'ils sont morts à 15 jours d'intervalle, comme s'ils voulaient partir ensemble aussi quand même. C'est-à-dire que ma mère, qui était condamnée parce qu'elle avait un cancer relativement jeune, devait mourir et mon père s'est arrangé pour faire une chute si violente qu'il est mort 10 jours avant elle. C'est Quand vous regardez ça avec le recul, ça vous paraît effrayant. Et en fait, toute la thématique de l'absente, pour moi, c'est ça. Puis après, je vais vous rendre la parole pour vous laisser diriger la conversation. Mais toute la thématique, pour moi, de l'absente, c'est ça. C'est qu'en fait, il nous faut tant d'années, pour parvenir à revenir sur le mystère ou le secret des parents et parvenir à mettre des mots sur ce qui s'est passé. Voilà, ce qui s'est passé. Et les parents, la marge entre les parents d'un côté et les enfants, elle est immense. Je pense que les amis adultes connaissent mieux nos parents que les enfants. Les enfants, c'est comme un... Moi, j'ai des images très animalières dans ces cas-là, parce que c'est vraiment comme des couvées de petits lapins, comme ça, et on compte sur les parents pour se débrouiller. Et en fait, il faut attendre d'être bien plus vieux qu'eux, au moment où tout ça est arrivé, pour essayer de comprendre et de réaliser que, bon, bah, ils ont fait comme ils ont pu, en fait. Ils n'étaient que des gens autour de 40 ans, plongés dans un malheur absolument épouvantable. Et il nous faut beaucoup, beaucoup d'années pour, pas à pas, revenir vers eux. Et alors, avec les bribes qui nous restent, et ce n'est pas grand-chose, ce qu'on a, ce qu'ils nous ont laissé, les souvenirs, les photos, les quelques témoignages, essayer de mettre des mots sur ce qui s'est passé.
Oui, vous avez dit déjà beaucoup, beaucoup de choses, en particulier sur ce roman, mais aussi sur ce que c'est que l'écriture, parce que mettre des mots justement sur ce qui est arrivé à ses parents 50 ans avant, c'est aussi creuser dans la vision de l'enfant ce qui a été volontairement ou involontairement, mais pour des raisons vitales, occulté.
Oui.
Et donc, ça demande une enquête. Et il y a aussi, dans ce livre, un aspect d'enquête extrêmement rigoureux, parce que vous revenez, donc, d'abord, avant Verdun, il y a la Bretagne, mais bon, c'est un petit préambule.
Oui, parce que c'est une espèce de Tour de France.
Voilà.
En fait, il ne sait pas où il va.
Voilà, c'est presque le tour, puisqu'on part de l'ouest, on va vers l'est, et puis on revient au sud-ouest, puisque c'est à Bordeaux que, quand même, l'enquête va prendre corps, hein, et qu'on va essayer de sortir les secrets des placards. Il y a justement un passage, mais on n'en dira pas plus, hein, où l'enjeu, c'est d'ouvrir un placard et de trouver justement des indices sur ce qui est réellement arrivé à la mère avant qu'elle ne rencontre le père.
Oui.
Voilà. Et donc, ce regard d'enfant, il nous est rendu, mais en même temps, comme vous le dites, le regard de l'adulte, 50 ans après, qui pourrait être le père de sa mère, et qui du coup, évidemment, adoucit son regard pour la première fois, parce que dans beaucoup d'autres livres, et même dans celui-ci, vous faites dire à Augustin des paroles extrêmement dures sur la mère, cette cinglée hystérique, hein, on lit page 102 encore, donc oui. On est bien avancé dans le roman, et on a encore ce genre de description de la mère, alors que déjà le regard a changé, mais enfin, c'est difficile de remettre en cause finalement toute une vie de rancœur ou de règlement de compte. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que dans ce livre, il y a ce tournant qui est très subtil, qui est très progressif, entre la rancune qu'on a tous, je crois, à l'égard de ses parents, parce qu'il y a toujours des règlements de compte, hein, et des rancœurs d'enfants, des choses impardonnables, alors que les parents ne se sont peut-être pas rendus compte du mal qu'ils faisaient à leurs enfants. Et puis, au contraire, ce regard d'adulte, de parent aussi, hein, oui. À son tour, quand on devient parent, il y a quand même beaucoup de choses qu'on comprend. Hein, quand Freud disait les parents, ce sont des gens qu'on peut haïr impunément, c'est toujours un petit peu cet aspect de la famille qui est en jeu. Et donc, au final, il y a l'amour qui triomphe, parce que même dans le couple des parents, on comprend quand même que même un couple infernal est lié par quelque chose de très profond qu'on ne peut appeler autrement que l'amour.
Oui, sur lequel on ne peut pas mettre beaucoup de mots, d'ailleurs.
Oui.
Parce qu'on ne saura jamais, en fait.
C'est une énigme.
Le secret des parents.
Voilà.
On ne le sait pas. Ce qui me passionne, moi, dans la vie, on doit partager ça aussi, c'est comment se construisent les vies, en fait. Par quel hasard deux personnes vont se rencontrer et décider de s'aimer et construire ensemble quelque chose. Et vous savez, c'est toujours cette possibilité de dire Oui, mais si, voilà, je m'étais trouvé dans une autre ville à ce moment-là, j'aurais rencontré quelqu'un d'autre. Philip Roth avait essayé de le faire dans un roman. Moi, je l'ai fait aussi dans un roman parce que je pense que ça nous passionne tous d'essayer d'imaginer une deuxième, une troisième vie ou une quatrième vie possible. Qu'est-ce qui serait arrivé? Voilà, qu'est-ce qui serait arrivé en particulier pour ma mère en 42 ou 43 si elle avait rencontré quelqu'un d'autre? Une part de l'enquête de l'absente me passionne beaucoup parce qu'en fait, je tombe sur une photo qui m'intrigue énormément, où avec ma loupe, c'est la première fois que je trouve ma mère bouleversante. Vous voyez, c'est tout ce travail de rétropédalage, en fait, comme elle me faisait peur depuis l'âge de 9 ans, c'est très compliqué pour moi de regarder des photos et d'essayer de regarder avec des sentiments plutôt objectifs, enfin, avec un regard neuf, en tout cas. Et je tombe sur une photo, j'ai cette photo, en vrai, j'ai cette photo, parce que je fais une parenthèse, puis je reviens à la photo. Mais mes parents sont morts dans une telle pauvreté, en fait, qu'on a mis des scellés sur les portes de leur appartement après leur mort, et que nous n'avons hérité évidemment de rien. Ça, il n'y avait que des dettes. De toute façon, on aurait refusé l'héritage, parce que sans ça, on aurait été endetté pour des années. Mais du coup, on n'a rien eu. On n'a même pas eu de photos. Et donc, j'ai dû aller voler les photos. Moi, les photos, ça vaut beaucoup plus pour moi que toutes les sommes d'argent possibles. J'ai dû aller voler les photos la nuit pour avoir des photos, parce que là, je ne peux pas supporter l'idée de ne pas avoir des photos. Donc, j'ai des photos. J'ai beaucoup de photos. Autant de photos que j'ai pu, j'ai tout volé, j'ai tout pris. De toute façon, les huissiers les auraient détruites, donc ce n'était pas la peine de leur laisser. Donc, j'ai des photos. Et j'ai cette photo, mais qui était noyée un peu dans la masse. Et puis je suis vraiment tombé dessus, c'est-à-dire que c'est une photo de ma mère, qui est très jolie en fait, dans le parc du château où elle a été élevée, parce qu'elle vient d'une famille très aisée. Et je me suis mis à regarder cette photo avec des loupes, et j'ai vu son regard qui était très mélancolique, et puis j'ai vu une date derrière, c'est au milieu de la guerre. Donc en 42-43, je donne la date dans le livre. Et tout d'un coup, ça m'a posé vraiment un problème d'enquêteur, presque. Parce que tout d'un coup, ça a fait écho à une seule phrase d'elle que j'ai jamais oubliée. J'oublie jamais les phrases importantes, je crois. Comme elle n'en disait pas beaucoup, parce que la plupart du temps, elle pleurait ou elle n'était pas là, etc. Un soir, dans les HLM, on vivait à la bougie. On était vraiment une famille étrange. Mon père n'était jamais là le soir parce qu'il vendait des choses en porte-à-porte, des aspirateurs, des éponges, il vendait des tas de choses. Et ma mère, qui était en espèce de blouse de travail, comme ça, avec ce visage émacié, avec des yeux, ce que j'appelle des yeux de folle, toujours quand j'écrivais enfant. Toujours, elle avait des yeux de folle. Et ma mère dit tout d'un coup cette phrase que personne ne relève d'ailleurs, quand je pense que j'ai failli épouser un tel, et elle donne un nom, et aujourd'hui je serai femme d'ambassadeur. Voilà, c'était intéressant. C'était même incroyablement puissant, sauf que évidemment aucun des enfants ne relève parce que ce ne sont pas des phrases destinées à des enfants. Mais moi je m'en souviens. J'ai toujours noté des choses et tout ça. Je pense que j'ai su que je deviendrais écrivain assez vite et que les mots m'intéressaient. Et je me souviens très bien de cette phrase. Et tout d'un coup, elle fait écho à la photo que je retrouve, bien sûr. Puisqu'en fait, je sais qu'elle se marie avec mon père en 44, en juin 44. Ça veut dire qu'en fait, et c'est toute une enquête, donc je ne vais pas vous révéler toute l'enquête. Mais ça veut dire qu'en fait, probablement juste avant la guerre, elle a été fiancée avec un autre homme qui a fait de la résistance, ce que n'a jamais fait mon père, et qui est donc gaulliste, devenu ambassadeur. Mais je sais que c'est vrai qu'il est devenu ambassadeur parce que j'ai travaillé pour savoir. Ça veut dire que cette femme, élevée dans un milieu extrêmement raffiné, et riche d'ailleurs, aurait pu avoir une toute autre vie que le destin qu'elle a connu avec nous, qui est un destin fracassé vraiment, vraiment fracassé. 11 enfants, il y en a un qui est mort, pas un sou, et finalement morte dans la plus grande des misères en fait, pas seulement matérielle, mais même sans ses enfants, donc c'est extrêmement triste en fait son destin. Et donc cet autre destin possible devient évidemment le sujet d'une enquête qui me passionne et dit quelque chose de très profond sur la vie et aussi sur notre vie. Parce que c'était toute la thématique du chagrin que j'ai écrit maintenant il y a plusieurs années, mais qui vraiment me passionnait. C'est-à-dire à ce moment-là, je m'étais dit, je ne veux pas, alors que j'écris depuis toujours, je ne veux pas disparaître avant d'être parvenu à écrire un roman autobiographique en essayant véritablement, avec tous les indices possibles, de raconter le drame de cette famille. Donc le chagrin, en fait, c'était ça l'ambition. Il m'a rendu malade tellement il était difficile à écrire. Comme quoi, écrire sa propre vie, c'est quand même beaucoup plus difficile que d'écrire un roman. Parce que vous faites attention, tout a un poids, tout devient extrêmement important. Et j'avais compris en écrivant Le Chagrin, il y a une dizaine d'années, qu'évidemment, la vie commençait en 14-18 pour notre génération. La vie commençait en 14-18. C'est-à-dire que le début du drame de mes parents, et donc je reprends évidemment ça aussi dans L'Absente, le début du drame de mes parents, c'est 14-18. Le drame qu'on a tous partagé, nous les Français. C'est-à-dire que mes deux grands-pères que je n'ai pas connus, ni l'un ni l'autre, ont été massacrés en 14-18. Ça veut dire qu'en fait, et mon père et ma mère ont vécu sous le joug de la souffrance du père. Le père de ma mère avait perdu un pied, donc il est rentré complètement esquinté de la guerre. Il était lieutenant d'infanterie. C'est déjà un miracle qu'il soit rentré. Donc, comme tous ces officiers d'infanterie, il est rentré couturé de partout. Et donc, en fait, jusqu'à sa mort, il n'a fait que souffrir. Ce qui veut dire que le caractère de ma mère, et il fallait pour ça que j'écrive Le Chagrin pour le comprendre, que le caractère de ma mère ne tombait pas du ciel. Elle avait vécu toute son enfance et sa jeunesse, ensuite elle perd son père autour de l'âge de 20 ans, donc elle le perd jeune, autour de la souffrance du père, qui souffrait comme un damné tout le temps, parce qu'il avait des éclats d'obus dans les jambes, etc. Donc déjà, ça me permet d'approcher la mélancolie de ma mère. Et en ce qui concerne mon père, c'est exactement la même chose. Il était officier de carrière, cette fois-ci, le père de mon père. Il est rentré gazé, et en fait, il était quasi fou, en fait, de souffrance. Ce qui fait qu'il frappait mon père, qui était fils unique, qui est donc un gosse sur lequel j'ai récupéré plein de photos, dont je peux voir l'année de ses 16 ans, quand il perd son père, je vois combien son visage est triste, je vois combien il a souffert. C'est pour dire que ce couple qui finalement va se rencontré en 43 ou début 44, je ne sais pas, qui va se marier en tout cas en 44, vient de ces deux endroits-là, quoi, qui sont quand même des lieux de souffrance. Donc on ne peut pas, comme je l'avais fait il y a 30 ans, écrire un roman avec le regard d'un enfant, en s'en tenant au regard d'un enfant sur les parents. Voilà, c'est ça que je veux dire, en fait. C'est pour ça que notre propre vie, la mienne, la nôtre, en écrivain aussi, elle est en perpétuelle évolution sur le jugement qu'on porte sur ce qui s'est passé avant. Parce que quand vous commencez à écrire, évidemment que le premier roman, quand vous sortez d'un endroit comme ça, c'est le regard d'un enfant éberlué devant un monde adulte qui s'effondre. Ça ne va pas plus loin que ça. Et ça donne un roman avec une tonalité forte. Enfin, c'est Prier pour nous, voilà, c'est mon premier roman, c'est le regard d'un enfant. Mais 20 ou 25 ans plus tard, je me suis dit, non mais Prier pour nous, certes, c'est le regard d'un enfant, mais maintenant, moi, je ne suis plus du tout un enfant. Ce qui m'intéresse, c'est un regard d'adulte sur la même histoire. C'est-à-dire que je me dis, eh bien, je vais réécrire la même chose, mais en lui donnant tous ses antécédents, tout. Et c'est ça qui devient une œuvre considérable. Ça m'a d'ailleurs rendu malade d'écrire Le Chagrin, parce que de toute façon, même en quantité, je suis passé d'un roman de 250 pages à un roman de 600 ou 700, parce que ça devient l'histoire d'une famille dans le siècle. Donc c'est le 20e siècle aussi que vous traînez avec vous. Parce que sans ça, il n'y a pas de... On ne tombe pas de nulle part. On est tous nés dans ce siècle-là des deux guerres. Donc voilà. Donc j'étais obligé d'intégrer le drame de 14-18 et d'aller jusqu'à la fin des parents. Et je ne voulais pas faire de la fiction. Je voulais véritablement faire un roman fictionnel. C'est-à-dire, c'est toujours un roman parce que ce sera toujours mon regard de toute façon. C'est pas la vérité. Je ne sais pas où est la vérité. Je reste toujours subjectif, sujet, je fais avec mon regard, avec mes souvenirs, avec ce que j'ai compris, avec ma passion pour l'histoire, donc je connais bien les guerres, l'entre-deux-guerres, tout ce qui s'est passé, tout ça me passionne beaucoup, mais j'essaie de comprendre leur logique, c'est-à-dire qu'évidemment qu'ils sont vichistes en 40, ils sont vichistes en 40, parce que tous les gens qui sont issus de 14-18 ont un culte pour le maréchal Pétain qui les oblige presque à être vichistes en 40 par fidélité. Et je la comprends. Alors qu'en fait, si je regarde sans aucun contexte, je ne la comprends pas. Je me dis, c'est incroyable, ils auraient pu faire de la résistance. Réaction absolument stupide.
Anachronique.
Pardon ?
Et anachronique.
Et anachronique, c'est-à-dire vous êtes obligé de tout replacer dans le contexte historique. En 40, très peu de gens font confiance au général de Gaulle, qui est à peu près inconnu. Et donc, il n'est absolument pas question de parler de résistance. On a une fidélité au maréchal qui a gagné cette guerre de 14-18. Et donc, on lui fait de nouveau confiance. Voilà. Et c'est ça le sens de l'histoire. C'est normal.
Et là, de livre en livre, donc, il y a un approfondissement et un enrichissement d'un univers qui est à la fois familial, mais qui est aussi historique, parce qu'on voit bien comment les événements des individus sont complètement inscrits, pas déterminés, mais inscrits en tout cas dans un cadre historique sur plusieurs générations. Et tout à l'heure, on disait que la mère n'était pas disponible pour aimer ses enfants, elle n'était pas disponible, vous avez dit, parce qu'elle était enfermée dans sa tristesse, mais elle était aussi enfermée dans un système de valeurs que vous résumez très bien, et qu'elle a hérité de l'héroïsme, notamment de son père, qui souffrait sans parler, sans s'attendrir. Et donc, son système de valeurs, la mère en hérite, élégance, dignité. Et donc, quand elle est déclassée et qu'elle est condamnée à l'inélégance et à l'indignité, et ce sont les mots que vous employez, effectivement, c'est un malheur terrible, quoi. Mais on voit le lien entre les sentiments et les valeurs.
Oui, tout à fait, oui, c'est vraiment ça, oui. Et en fait, j'ai découvert plein de choses en écrivant L'Absente, et des choses que j'avais sous les yeux et que je ne voyais pas. Et notamment, le poids de ce déclassement. C'est très étrange, parce qu'en fait, ma mère est issue d'une grande famille de Bordeaux, qui avait beaucoup d'argent. Et c'est en écrivant L'Absente que je réalise qui nous ont si peu aidés, qui n'ont même pas payé les notes d'électricité. C'est-à-dire, au moins, alors qu'on était relogés dans des HLM assez pitoyables, vraiment durs, on aurait pu éviter, en plus, de nous couper l'électricité. On a quand même vécu pendant pratiquement 3 ans à la bougie. Ça ne se fait plus beaucoup de vivre à la bougie. Et j'ai réalisé qu'à ce moment-là, et ça a ajouté d'ailleurs à mon chagrin, comprenant d'où elle venait, à quel point elle a dû se sentir abandonnée des siens. Et pourquoi était-elle abandonnée des siens? C'est très étrange. Ce sont des questions comme quoi on met un temps fou à entrer dans la problématique et dans les secrets des parents. Pourquoi? Je ne m'étais même jamais posé la question en écrivant Le Chagrin. Je n'y avais même pas pensé qu'au fond, c'est vrai, pourquoi ils ne nous avaient pas au moins aidé à payer l'électricité? Déjà ça. Et j'étais encore incapable de me mettre dans sa tête à elle, c'est-à-dire de me dire, mais combien elle a dû souffrir, elle, de cette solitude par rapport à une famille qui existe toujours à Bordeaux, qui était là et qui ne levait pas le petit doigt pour elle. Et ça, c'est encore inaccessible aux enfants, et longtemps aux enfants, de se mettre dans la tête des parents pour arriver à mesurer ça. La même chose que ce que vous disiez là très justement, le déclassement. C'est-à-dire, quand vous êtes enfant, vous ne savez pas ce que c'est d'être déclassé, parce que de toute façon, vous êtes tombé là-dedans quand vous étiez petit. Moi, pour moi, on était des gens très pauvres. Mon père était pourchassé par les huissiers toute la journée. On avait été déscolarisés. Donc, il n'y a pas de problème de déclassement. Je m'en fiche complètement. Mais pas elle. Pas elle. Parce qu'elle, elle avait été extrêmement bien élevée à Bordeaux, dans un milieu qui avait de l'argent, où effectivement on se tenait, c'est-à-dire que le père ne disait pas qu'il souffrait, même s'il est mort de ses souffrances, on se tient. Et donc, être déclassé, c'est-à-dire être l'expulsion qui signifie ce déclassement, c'est-à-dire qu'on vous met dehors comme un gangster, avec un commissaire de police, quoi. On vous casse vos affaires, vous êtes expulsé, quoi, chassé, vous êtes disqualifié, vous êtes irrespecté. Voilà, c'est ça qui lui arrive en fait. Mais combien d'années il faut à des enfants pour comprendre ça? Énormément en fait. Parce que les enfants, ils ont le nez sur l'événementiel. Donc de toute façon, ils ne voient pas. Ils voient juste que la mère devient folle, c'est tout. Comprendre pourquoi elle devient folle devient un travail extrêmement compliqué. Voilà, c'est ça cette histoire de déclassement. Et je voulais dire quelque chose et ça m'est sorti de l'esprit, donc oui. Je suis désolée. Ça va.
Mais en tout cas, on est passionné par ce parcours vers la lucidité, une lucidité qui va s'approfondir encore sans doute dans vos futurs livres, parce que c'est quand même un parcours qui n'a pas vraiment de fin. Enfin, c'est un parcours, comme dit Pessoa, on appareille vers soi-même quand on écrit, mais on fait escale chez les autres.
Oui.
Donc c'est une étape, hein, ce livre, mais c'est une très très belle étape, parce qu'on a pour la première fois une espèce de réconciliation, en tout cas d'empathie pour la mère tant haïe, et on arrive, à, comme vous dites, à ouvrir les yeux, à voir la mère avec un regard d'adulte, un regard plus mûr, mais non seulement à la voir, mais à la reconnaître, et cette oui. reconnaissance, elle irradie dans tout votre roman, et on va même d'une reconnaissance dans ce sens-là, c'est-à-dire simplement voir ce qu'elle était vraiment de son point de vue à elle, mais on va même plus loin, c'est-à-dire vers la reconnaissance au sens de la gratitude presque. Et alors là, vraiment, il y a une espèce de transmutation dans votre livre, c'est-à-dire que le drame, la tragédie même, hein, l'expulsion à 9 ans, devient fondatrice. Vous avez dit tout à l'heure d'ailleurs que oui. vous êtes écrivain, peut-être à cause de ce drame, et que ce drame finalement, ben, il faut lui dire merci quelque part.
Oui, c'est, en fait, c'est, je suis sûrement écrivain de ce fait-là, parce que je pense que notre vie, là aussi, aurait été complètement différente. C'est bizarre, parce que jusqu'à cette expulsion, l'année de mes 9 ans, donc, moi je suis le 4e des 10, hein, donc il y en a des plus grands que moi, puis des plus bien sûr. Jusqu'à cette expulsion, l'année de mes 9 ans, nous étions des petits enfants bourgeois, gâtés, voilà, on était, gâtés non, parce qu'on n'avait pas vraiment d'argent, mais on vivait comme une famille bourgeoise, on était dans des collèges, on était, voilà, tout ça. Et donc, j'aurais probablement échappé au questionnement, j'aurais probablement échappé à tout ça, j'aurais fait un métier comme tout le monde. Or, la brutalité et l'effondrement, j'ai toujours que ce mot, parce que c'est vraiment un effondrement, c'est-à-dire qu'en fait, ensuite, tout est en miettes. Donc, on a été déscolarisés, et plus jamais, en fait, on a retrouvé nos parents avec le regard qu'on avait sur eux quand on était enfant. C'est-à-dire, plus jamais ils ne seront des parents, en fait. Vous devenez presque assez vite... En tout cas, moi, parce que je suis devenu le tuteur de mon père à un moment, vous devenez presque assez vite les parents de vos parents alors que vous n'avez pas l'âge, en fait. Comme mon père faisait des chèques sans provision tout le temps, le juge, à un moment, m'a demandé d'être son tuteur. Et moi, j'ai dit, moi, je ne peux pas être le tuteur de mon père et je ne vais pas l'empêcher de faire des chèques, parce que quand il fait des chèques sans provision, c'est pour nous acheter à manger, donc je ne vais sûrement pas. J'avais 20 ans, j'étais parti de la maison déjà. Je ne vais sûrement pas être le tuteur de mon père. Il me dit, vous me mettez dans une situation impossible. Il faut que ce soit un des fils qui soit le tuteur du père. J'ai dit, ben, je m'en fiche, je signe ce que vous voulez, je suis le tuteur de mon père, mais je vous préviens, je le laisserai faire ce qu'il veut. Je ne serai pas le tuteur en vrai de mon père. Mais si juridiquement vous avez besoin que quelqu'un soit le tuteur, je veux bien être le tuteur. On est hors système, vraiment, quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que sortant de cette situation, je suis parti avec l'un de mes frères vers 18-19 ans de la maison, alors que mon père, déjà, vous voyez, c'était complètement bancal. Mon père nous dit, vous ne pouvez pas partir, vous ne pouvez pas me laisser seul avec votre mère, c'est trop compliqué. Et vous voyez, comme quoi on devient assez vite les parents des parents, quoi. Et avec mon frère Stéphane, on lui a dit, non, mais d'accord, mais nous, on ne l'a pas épousé, ce n'est pas notre vie, nous, on a envie de partir, on n'en peut plus, quoi. Et donc, on s'est pris une chambre de bonne et on est parti. Voilà, on est parti, on a fait notre vie. Mais lorsque vous sortez de ce chaos, ça pose quand même des problèmes considérables. C'est-à-dire que l'affaire de la transmission qui doit se jouer entre des parents et des enfants ne s'est pas jouée, en fait. Mais je ne veux pas dire qu'ils nous ont rien transmis. Je veux dire qu'ils nous ont transmis une façon d'aborder la vie avec des bouts de ficelle, de façon absolument chaotique. Ils ne nous ont rien transmis d'intellectuel et de beau sur la vie. Voilà. Il n'y avait plus de livres à la maison, il n'y avait plus rien, alors que mon père avait quand même été un intellectuel avant tout ça. Il avait fait des études, etc. Mais il n'y avait plus de livres, il n'y avait plus rien. Moi, je me suis mis à lire en trouvant des livres comme je pouvais vers 13-14 ans. Et on n'avait aucun héritage intellectuel, si ce n'est que les parents transmettaient une forme d'antisémitisme assez déplaisante, même très déplaisante, mais avant que vous aperceviez que c'est de l'antisémitisme, on met du temps. Une forme de racisme aussi, parce que je suis petit pendant la guerre d'Algérie, donc à la maison, ils ne parlent jamais des Arabes autrement qu'en parlant des Bougnoules. Tout ça sans mot d'explication. C'est-à-dire que c'est en même temps des gens qui continuent à aller à la messe le dimanche, y compris quand on vit dans la HLM, comme ça, on va dans une église qui est dans une cité ouvrière. Et c'est très bizarre parce que j'ai 10 ans, 11 ans, et on va à la messe, donc on prie. Et à la sortie de la messe, ma mère ne dit que du mal des gens qui étaient dans l'église, en parlant des péquenauds, en disant non, mais t'as vu, c'est péquenauds et tout ça. Nous, on vivait sans électricité dans une cité ouvrière, mais il y avait donc des péquenauds. Alors, c'est qui les péquenauds? C'est extrêmement bizarre quand vous êtes petit. Et alors, moi, comme avant l'expulsion, j'étais très catholique, j'allais au catéchisme. Moi, je croyais tout ce qu'on me disait, donc je pensais que Jésus était là et allait nous protéger et tout ça. Voilà, donc je voulais même être missionnaire à 6 ou 7 ans, c'est vous dire si j'avais la foi. Et donc, déjà, ça m'intriguait beaucoup, je n'osais pas lui dire que quand même, dans l'Évangile, tous les hommes sont égaux, quoi. Et que donc, c'est curieux d'aller à la messe, de prier, puis ensuite de dire du mal des gens. Ils sont péquenauds, ben et alors, et nous, on est quoi? Enfin, quand vous êtes gamin, ça vous pose quand même beaucoup de problèmes. Cela, juste pour dire que quand je suis parti à 18-19 ans de la maison, c'était une page blanche, ma formation intellectuelle. C'était rien, quoi. La seule année importante, c'est l'année du bac que j'ai passée avec ce même frère. Comme on avait été déscolarisé, on ne pouvait plus être dans l'enseignement public. Donc, on a passé le bac dans une école privée et pour payer, on a dit qu'on serait surveillant une fois qu'on aurait le bac, pardon. Et ça a marché. On a eu le bac tous les deux et après on a été surveillant sans être payé dans ce même établissement. Donc on avait payé notre bac. Mais après le bac, oui, je voulais vous dire, l'année du bac, ça a été la rencontre de ma vie, le professeur de philo. Voilà, ça a été, voilà, c'était la première fois que je rencontrais quelqu'un qui m'éblouissait vraiment. Voilà, qui m'éblouissait. C'est-à-dire, j'avais l'impression que le monde, c'était une vaste ferraille où il n'y avait pas d'idées, il n'y avait rien, sauf les livres que je lisais et que j'arrivais à choper. J'avais quand même lu pas mal de gens. Hein. J'avais lu quand même Albert Camus, que j'aimais déjà beaucoup. J'avais lu, enfin, les gens que tout le monde lit. Voilà. Sartre, Camus, qu'on lisait à l'époque, Boris Vian, etc.
Marguerite
quoi.
Duras aussi.
Pardon?
Marguerite Duras aussi.
Marguerite Duras, Un barrage contre le Pacifique, son premier roman, qui est une merveille, qui demeure pour moi une merveille absolue. Et un certain nombre d'auteurs comme ça qui m'avaient un peu illuminé. Mais tout d'un coup, il y a un homme, un professeur de philo comme ça, qui ouvre les fenêtres du monde, vraiment. C'est extraordinaire, être professeur dans ces conditions. Moi, je pense que c'est magnifique, quoi. Je pense qu'il n'a jamais su à quel point il m'a ébloui, cet homme. Sauf que j'ai été très vite son meilleur élève en philo. Je prenais tout intégralement, tout ce qu'il disait. Je pense que j'ai tout appris par cœur, quoi. Je voulais tout m'intéresser. Et après cette année si passionnante en philo, on quitte la maison avec mon frère. Et y a quelque chose que je comprends très vite, en fait. C'est que la seule chose qui m'intéresse, c'est d'écrire, quoi. C'est d'écrire parce que ce n'est pas possible de boucler l'affaire, quoi, de passer à la page suivante sans vous poser des questions sur comment c'est possible. Comment c'est possible que deux personnes, en l'occurrence donc nos parents, aient pu faire 11 enfants dans une telle indifférence, sans rien nous transmettre, et se noyer dans leur propre destin. Mais après tout, leur destin, c'est quand même le leur. Nous, on n'a rien demandé. Se noyer dans leur propre destin, donc ne rien nous transmettre. Comment c'est possible philosophiquement, quoi ? Vous ne pouvez pas conclure là-dessus. Vous ne pouvez pas dire, bon, bah, passons à autre chose. Moi, je vais faire des études pour être pilote d'avion et puis je ne m'occupe plus de rien. Ben non, ce n'est pas possible, en fait. Ce n'est pas possible parce que ça pose une interrogation fondamentale, quand même, qui est celle de l'héritage intellectuel. C'est-à-dire, vous ne comprenez rien pourquoi ça s'est passé comme ça. Je vous ai dit une fois peut-être, j'étais venu ici pour Le Chagrin, je crois. J'ai plus pour, oui, je suis venu déjà pour un autre livre, mais je ne sais plus si c'est pour Le Chagrin.
Colère, oui.
Ah, c'était pour Colère, oui, ce qui suivait Le Chagrin, en fait, oui. Mais je me souviens avoir demandé à 18 ou 19 ans à ma mère, pourquoi tu as fait 11 enfants, et qu'elle m'a répondu, on n'allait tout de même pas vous mettre à la poubelle. Donc, vous voyez, c'est quand même incroyable comme... comme vide intellectuel, comme peu de réflexion. Mais en même temps, je les condamne pas. Ils viennent d'où ils viennent, d'où ils viennent avec ce qu'ils ont reçu eux aussi. C'est compliqué, quoi. Je pense que c'est une génération où voilà, ils faisaient des enfants, ils faisaient l'amour, donc ça faisait un enfant. Bah oui, c'est comme ça. Donc ils auraient peut-être pu trouver un autre moyen pour pas faire autant d'enfants, mais bon. Il n'y avait pas la pilule. Je pense qu'ils s'aimaient, donc je suis content de savoir qu'ils faisaient l'amour. Ça m'a toujours fait plaisir, c'est au moins de savoir qu'ils s'aimaient. Quand même, ils se détruisaient, mais bon, voilà, on est tout dans cette problématique-là très compliquée. Et évidemment que je ne pouvais faire qu'écrire, quoi. Je vous dis ça pour... Avec le recul du temps, je me dis, mais qu'est-ce que j'aurais bien pu faire d'autre que d'écrire ? Évidemment que j'allais écrire. C'est-à-dire, je voulais comprendre comment c'était possible. D'où ils venaient, essayer de comprendre qui ils étaient.
Alors, et aussi qui vous êtes vous-même, que oui, sommes-nous chacun.
Raison, ouais.
Parce que vous dites qu'il n'y avait pas d'héritage, mais en fait, la problématique, c'est comment se réapproprier un héritage quand il n'y a pas eu de legs. Mais vous avez un héritage, comme chacun d'entre nous a un héritage, oui. À la fois génétique et épigénétique. Tout ce que nous avons vu, justement, depuis notre plus jeune âge. Et vous avez d'ailleurs écrit dans un autre roman qui s'appelle Écriture, qui date de 2005.
Écrire.
J'aimerais parvenir à montrer combien nous sommes faits des autres.
Oui.
Et donc, dans ce roman, L'absente, il y a bien sûr le couple des parents et surtout la mère, mais il y a aussi les rencontres de hasard, les gens qu'on rencontre.
C'est vrai, vous avez raison.
Il y a Colette et Robert qui quelque part, font écho aussi au couple des parents, parce que Colette, elle aussi, elle aurait pu épouser quelqu'un d'autre que Robert, elle aurait eu une toute autre vie.
Ça, j'ai beaucoup aimé ça, oui, en fait, dans ce livre.
C'est très attachant, cette manière de, justement, à la faveur du road movie, que vous faites en voiture, mais aussi à vélo, parce que le vélo compte aussi dans votre roman, et aussi le parallèle entre le vélo et l'écriture, qui est très intéressant.
Oui.
On voit bien que les rencontres de hasard, elles sont là pour nous dire, finalement, on fait son miel, on peut faire son miel de tout dans la vie, de tout ce qu'on rencontre, les gens, les choses, les paysages. Et c'est aussi très fort dans le roman parce qu'on pourrait penser que c'est vraiment triste, que tout cet héritage involontaire ou subi est un boulet. Et puis finalement, non, il y a une transfiguration très lumineuse parce que tout ça construit non seulement un roman, mais une foule de romans possibles.
Oui, oui, c'est vrai. Mais j'ai beaucoup aimé en fait écrire L'absente à cause de ça, parce que je trouve qu'il y a une espèce de lumière qui rentre comme ça. L'idée, en fait, d'être parti sur la route, c'est une excellente idée. Moi, d'ailleurs, j'adore voyager, j'adore les hôtels et tout ça. Et j'adore les rencontres. Et c'est vous écouter les gens. Enfin, c'est ma passion hein, d'écouter les gens. C'est pour ça que je fais des biographies aussi, vous savez. Enfin, je fais beaucoup de...
Oui, Nana Mouskouri, Sylvie Vartan et tant d'autres.
Gérard Depardieu, Renaud dernièrement. Entre chaque roman, pratiquement... Je travaille avec quelqu'un pour écrire sa vie. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, ce n'est pas moi-même de faire la biographie de quelqu'un, c'est d'écouter la personne. Donc, en fait, c'est ça l'héritage, probablement. En fait. Ça a commencé, je pense, avec mon professeur de philo, mais après c'est toutes les rencontres et tout ce que vous comprenez entre les lignes, ce qu'on appelle un peu le sous-texte, quand vous écoutez les gens parler. Et c'est vraiment passionnant, en fait, parce que tout ce qui échappe à la conversation, à ce qu'ils essaient de vous expliquer, il y a tout aussi ce qu'ils n'arrivent pas à exprimer, que vous devinez, que vous comprenez, et que vous allez mettre en mots par la suite. Voilà. Et c'est ça, en fait, l'héritage le plus intéressant dans la vie. C'est quand même toutes ces rencontres qui traverse l'absente, oui, comme ça, j'aime bien, ça fait rentrer de la lumière dans le texte. Voilà, c'est le croisement de nos expériences à tous qui, à un moment, parvient à appréhender la profondeur de la vie. Voilà, ça vraiment, ça me passionne. Mais vous avez raison de parler d'héritage. Bien sûr qu'il n'est absolument pas nul, l'héritage des parents, en fait. Ils nous ont légué, sans le savoir, des tas de choses. D'abord, une étonnante force, je trouve, parce que nous sommes 6 garçons et 4 filles, et je trouve que le destin des garçons dans cette famille, alors on pourrait s'interroger pourquoi plus peut-être les garçons que les filles. Les garçons, dans ma famille, ont des destins très intéressants. Mon frère Stéphane, avec lequel je suis parti, donc qui est un peu plus âgé que moi, est devenu un photographe extrêmement reconnu aujourd'hui, extrêmement intéressant, qui a un peu le même univers que moi, alors qu'on ne se voit pas, et qui a fait des expositions dans le monde entier, et qui est vraiment un homme passionnant, extrêmement silencieux, qui ne parle jamais, moi j'écris, lui il ne parle pas du tout, il n'écrit pas, mais on peut voir ses expositions, et quand je vois des photos à lui, c'est incroyable, parce que c'est comme s'il mettait en photo ce que j'écris. Quand j'ai écrit L'hiver des hommes, là, qui se passe en Yougoslavie, parce que j'avais couvert cette guerre quand j'étais journaliste, etc., ça m'intéresse beaucoup, les guerres, donc je suis retourné là-bas pour écrire L'hiver des hommes, qui est le destin des officiers tortionnaires qui se cachent. Je voulais savoir comment ils faisaient pour élever leurs enfants. Voilà, moi, ça m'a toujours passionné, ça. Comment, quand on a été un monstre comme le général Mladic, on peut ensuite embrasser sa femme le soir, coucher ses enfants, et voilà, après avoir fait bombarder le marché de Sarajevo, massacrer toutes les femmes et les enfants qui s'y trouvaient, sciemment, comment on peut ensuite aller dîner en famille et manger la soupe avec les enfants. Voilà, ça, pour moi, c'est une espèce de point d'interrogation monumental. Donc, je passe très longtemps là-bas pour écrire L'hiver des hommes. Et quand je vois les expositions de mon frère, il dit la même chose en photo. Voilà. Et pendant des années, il allait à Berlin-Est, avant le 89, avant que le mur tombe. Il travaillait beaucoup sur les pays communistes, c'est-à-dire les pays en prison. Voilà, les pays en prison où les gens n'ont pas le droit de sortir. Et des photos absolument bouleversantes. Et quand je vois toutes ces photos... 50 ans de photos d'une vie, pratiquement, puisqu'il a commencé à l'âge de 15 ans, en fait, on dit la même chose, à peu près. Donc, c'est pour dire, moi, je ne crois pas du tout qu'on ait rien reçu. Je pense que de notre père, qui était vraiment un homme très singulier, très drôle, c'est incroyable, en fait, d'avoir une force pareille dans la vie. Je veux dire, je pense qu'il n'y avait pas de jour où il n'y avait pas une lettre d'huissier le menaçant de ceci ou cela. Donc, il n'avait pas un sou. Il dormait malgré tout. Il ne pouvait pas changer les pneus de la voiture. Donc, il avait des pneus lisses. Donc, chaque fois qu'on se faisait arrêter par la police, il expliquait qu'il avait 10 enfants, que ce n'était pas la peine de lui mettre un PV parce qu'il ne pourrait pas le payer, que ça allait ajouter au reste. Alors, finalement, il devenait ami avec les deux policiers. Et les types, ils disaient, bon, on laisse tomber. Enfin, moi, je l'ai vu dans des situations incroyables, cet homme. Et je pense que je n'aurais pas supporté psychologiquement 10% de ce qu'il a supporté. Donc, évidemment qu'il y a un héritage. Il nous a appris à refaire des appartements, il nous a appris à tout faire nous-mêmes, parce que comme on n'avait pas l'argent, il fallait tout refaire, et il fallait tout faire nous-mêmes, bien sûr. Donc après, quand on a pu sortir des HLM, on faisait tous les travaux dans l'appartement, on faisait tout. Il fallait toujours protéger ma mère qui risquait de sauter par la fenêtre, etc. Donc il y avait chez lui une espèce de force incroyable. Voilà. Et ça, il le transmet malgré lui. Évidemment qu'il transmet quelque chose. Et après, il faudrait entrer dans les notions de psychanalyse pour comprendre... Voilà, le destin des garçons qui n'est pas le même que le destin des filles dans la famille, voilà. Et puis il y a des fragilités, je vois bien, enfin, nous sommes tous les 10 quand même assez fragiles à certains moments, par certains côtés, mais comme tout le monde, de toute façon. Voilà, mais évidemment que... on n'est pas sorti du ruisseau. Évidemment qu'il nous a transmis quelque chose comme ça.
Oui, et c'est un flux qui continue, qui suit son cours. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'on est happé par ce roman, comme on est happé par l'univers de Lionel Duroy, et que c'est un texte conducteur, mais presque au sens électrique du terme. Il y a dans le roman un personnage de lectrice, et même d'archilectrice, puisqu'elle est libraire, c'est Sarah. Et donc, on ne peut pas faire autrement que de se projeter dans le personnage de Sarah qui s'est enfermée dans une chambre d'hôtel un été pour relire tout du roi dans l'ordre chronologique. Et je pense que c'est ce qui nous attend tous lorsqu'on entre dans l'une ou l'autre de ses œuvres. Merci infiniment, Lionel Duroy.
Merci.